When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'environnement et d'urgence climatique. Pourtant, c'est pas comme si ces questions étaient subitement devenues moins pressantes. Mais l'actu est ainsi faite, parfois même les sujets les plus brûlants peuvent déserter la une. Pourtant, des infos, il y en a. Tenez, il y a quelques jours, on apprenait le dépôt d'un recours en justice contre l'État français par des associations pour faire reconnaître les obligations pesant sur la France dans la lutte contre le changement climatique. Et ce vendredi 15 mars, c'est la grève mondiale de la jeunesse pour le climat. Une grève initiée par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, icône du mouvement des jeunes pour l'urgence environnementale et pressentie pour le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'ont essaimé partout en Europe les grèves scolaires dans les écoles, les collèges, les lycées, pour le climat.
Ce jour-là, quelques centaines de jeunes sont debout sur les marches de l'Opéra de Paris. Ils enchaînent les slogans et brandissent leurs pancartes sur lesquelles on peut lire « Il n'y a pas de planète B »,« La Terre, tu l'aides ou tu la quittes », »,« Les carottes sont cuites » ou encore « Pas de nature, pas de futur ». Toutes et tous sont là pour réclamer aux responsables politiques des actes contre le dérèglement climatique. Ce vendredi 22 février, collégiennes et collégiens, lycéennes et lycéens, étudiantes et étudiants sont en grève pour le climat. Les jeunes Françaises et Français ont ainsi rejoint le mouvement mondial des grèves scolaires pour le climat. Enfin, disent certains, car ailleurs en Europe, cette mobilisation est installée depuis plusieurs semaines. En Belgique, des jeunes manquent chaque semaine les cours et manifestent contre l'inaction climatique. Ils étaient 3000 pour la première grève le 10 janvier et plus de 35 000 deux semaines plus tard. En Allemagne aussi, la mobilisation débutée en décembre s'amplifie jusqu'à rassembler 25 000 jeunes le 18 janvier, alors qu'en Suisse, ils sont au même moment plus de 22 000 à manifester. Tous ces jeunes Européens ont répondu à l'appel de Greta Thunberg. C'est cette ado suédoise de 16 ans qui a initié dès la rentrée 2018 cette grève scolaire pour le climat et qui est devenue une véritable star.
My name is Greta. I am from Sweden. And today, right now, there are tens of thousands of children around the world who are striking for the climate and for their future.
Sa mobilisation a fait le tour du monde et elle a profité de la tribune qui lui a été offerte lors de la COP24, la conférence sur le climat qui a eu lieu en décembre dernier en Pologne, pour solliciter ses camarades du monde entier à faire grève, eux aussi pour le climat. Les ados de nombreux pays ont répondu et ont à leur tour quitté l'école une fois par semaine. En France, il a fallu attendre deux bons mois pour que les jeunes s'engagent à leur tour. Et le mouvement est toujours loin de rassembler autant que chez les voisins européens, malgré la venue de Greta Thunberg et d'autres coordinatrices européennes à Paris ce jour-là.
Ouais, c'est ça, on voulait être là pour lui montrer qu'on était mobilisés, que ça nous importait, mais bon, on est vraiment très peu, c'est un peu dommage.
Chiara, Laurette et Amandine ont 15 ans et sont toutes les trois en seconde dans un lycée parisien. Elles ont décidé d'être présentes soit en séchant le lycée, soit parce qu'elles n'avaient pas cours ce matin, et de se joindre à la vingtaine de jeunes rassemblés place de la République pour accueillir l'ado suédoise.
J'ai vu les interviews d'elles, ça m'a un peu alertée. Ça m'intéressait déjà tout le réchauffement climatique et tout, depuis je pense septembre, mais ouais, ça nous a beaucoup mobilisés, je pense, quand il y a eu la COP, où elle était là, ouais. Elle a fait un discours assez poignant.
Mais surtout qu'individuellement, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Donc quand le mouvement il a commencé à prendre dans les autres pays, ouais, que là, on a vu qu'il y avait des manifs, et on s'est dit « Ah, mais c'est peut-être que ça peut un peu changer, donc on y va vraiment. »
Et c'est vraiment parce qu'on se ressemble que bah, directement, on se sent concerné.
S'identifie un peu, ouais.
Et puis aussi, c'est quand même... Enfin, c'est fou, je trouve, parce qu'à 16 ans, moi, je ne suis pas du tout concernée comme ça. Je m'implique pas, etc. Donc ça donne envie.
Et vos parents, ils réagissent comment?
Oui, ils me soutiennent. Là, par exemple, cet après-midi, ils voulaient pas que je sèche les cours puisque j'avais un contrôle et tout. Mais la dernière fois, vendredi dernier, je leur avais pas dit que j'allais sécher les cours. Ils l'ont appris et ils m'ont dit t'aurais pu nous en parler, mais enfin c'est bien que tu sois impliqué parce que je ne fais pas ça pour sécher les cours, je fais ça vraiment pour une raison. Le 15 mars, je sais que j'irai à la manif, ils sont d'accord.
Et toi ? Ils m'ont dit t'es des cours pour des manifs, ça en vaut pas la peine, même si c'est pour le climat. Enfin, t'as un avenir quand même, et enfin, moi je trouve ça un peu inutile parce que l'avenir il est plus important pour la planète.
Ben surtout, enfin, à quoi ça sert d'étudier,
oui.
D'étudier si on n'est pas sûr d'avoir un métier plus tard ou...
Voilà, c'est pour ça que je peux pas sécher cet après-midi. Ils sont vraiment engueulés, quoi. Ils ont dit non, mais déjà tu sèches le 15 mars, alors tu peux pas sécher tous les vendredis.
L'attachement des parents à l'école est peut-être une des raisons, en tout cas chez les plus jeunes, de la difficulté à mobiliser autour d'une grève, mais ce n'est pas leur seule crainte.
Ouais, mais après, les manifs en France, elles sont un peu dangereuses. Puis en Belgique, j'avais lu qu'il y a un prof qui a mis toute sa classe à faire la manif et c'était son danger, alors qu'en France, même avec les CRS et tout, c'est pas possible.
Les casseurs, moi, c'est les casseurs que j'ai eu. Le 15 mars, j'ai pas envie qu'ils soient là, en fait. C'est une manif hyper pacifiste, nous, on pose de problème à personne, en soi, il n'y a pas de. On dégrade rien. Enfin, après, il y a des gens qui ont mis des trucs sur le ministère, mais nous, on n'a rien dégradé. Et ouais, on n'a pas envie que ça dégénère, alors que dans d'autres pays, ça se passe super bien. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas bien se passer ici. Ouais,
et puis le problème, c'est que du coup, ça impacte sur la vie des parents. Enfin, moi, c'est l'unique problème. Bah, tu pourrais y aller au 15 mars, mais par contre, si ça dégénère, tu rentres direct.
Quoi. Ouais, voilà.
Un peu plus loin, au pied de l'emblématique statue de la République, un groupe de lycéennes et lycéens de Montreuil déplie une banderole. Chaud devant, les États resteront-ils froids ? Elliot, 15 ans, et Ellie, 16 ans, étaient déjà mobilisés pour la première grève scolaire à Paris. Nina, 16 ans, les a, elle, rejoints cette semaine.
Au départ, je n'étais pas forcément pour la grève. Je suis quelqu'un d'assez soucieux de mes études. Et puis j'ai commencé à suivre Greta, et elle a dit quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Elle m'a dit que beaucoup de personnes lui demandaient d'aller en cours pour son avenir, mais que si elle n'allait justement pas en cours pour protéger cet avenir-là. Et du coup, moi, maintenant, je me dis que là, ce que je fais, c'est aussi pour mon avenir. Peut-être pas pour mes études et tout ça, mais c'est tout aussi important.
Tous les trois comptent manifester tous les vendredis jusqu'à ce que quelque chose change. Mais Ellie n'a pas attendu le mouvement pour se mobiliser.
On a assisté, du coup, avant même qu'on soit au courant de ce que faisait Greta, parce qu'on était un peu dans notre coin, on avait prévu de faire une journée consacrée à la planète. Donc, en incitant, on avait prévu plusieurs actions, faire une exposition rapide sur les enjeux climatiques et proposer à la cantine un repas végétarien en expliquant voilà, l'impact de la production de viande et de la consommation de viande sur le climat. Et puis on a été rattrapé par un mouvement qui est arrivé comme un ouragan et maintenant on en a discuté avec nos professeurs qui nous ont invités, ils nous ont dit voilà, nous aussi on trouve que c'est très intéressant les mobilisations de la jeunesse. On a eu des réunions où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser la jeunesse. Et il y a plein de projets qui sont montés dans le lycée. Le but c'est de faire une semaine où on va discuter avec les élèves toute la semaine, juste pour conclure par une sorte de grande journée le vendredi, du coup, avec plein d'interventions de plein de gens. Et pour les élèves qui en ont la volonté et qui également en ont le courage d'accepter de ne pas aller en cours l'après-midi pour marquer le coup de façon très, très forte, de dire voilà, nous on sait que pour notre futur il va être détruit par des gens qui ne pensent qu'au court terme et au profit. Et ben nous on refuse ça, et si pour vous marquer justement il faut qu'on quitte les cours et qu'on aille se mobiliser devant les endroits symboliques pour vous, et ben on le fera. Il y a une mobilisation et une conscience qui existe déjà depuis longtemps. C'est, en fait, c'est depuis les marches pour le climat, mais même notre génération est une génération qui a vécu, qui est marquée par plein de choses, qui a été marquée parce qu'on est une génération particulière, mais qui est surtout marquée par le fait que depuis 25 ans, on est né avec le problème climatique, et ça fait moi 16 ans qu'on me dit ouais, le climat, il faut le protéger. Ça fait 16 ans que chaque gouvernement, chaque décisionnaire politique et économique dit ouais, non, faut qu'on. On va faire des petites magouilles pour essayer de tenir encore un peu. Et du coup, bah maintenant, nous, on se trouve dans une situation où, en fait, pour les adultes, ça leur semble... Enfin, nous, c'est notre futur, quoi. Donc, nous, ce qu'on trouve très marrant, c'est que c'est les adultes qui nous disent de retourner en cours. Alors, nous, on répondrait très bien. Nous, on veut aller en cours. Mais alors, faites quelque chose. Bah, prenez notre place dans la rue. Et ça, c'est Greta Thunberg qui l'a dit. Je trouve que c'est vraiment marquant. Elle a dit, vous protestez contre le fait vous dites que notre place est à l'école et pas dans la rue. Mais alors, venez prendre notre place dans la rue. Faites changer les politiques et alors nous on pourra retourner dans l'école, mais jusqu'à ce que vous l'ayez vraiment fait, nous on se sentira obligés d'être dans la rue parce que sinon il y aura personne pour le faire, quoi.
« Les jeunes Françaises et Français n'auraient donc pas attendu l'appel de Greta Thunberg et la pression de leurs camarades européens pour se mobiliser pour le climat. Mais alors comment expliquer qu'ils aient rejoint si tardivement ce mouvement ? Pour essayer de comprendre, j'ai demandé à deux des coordinateurs du mouvement en France comment la mobilisation s'était organisée de leur côté.
Alors je m'appelle Hugo Viel, j'ai 20 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur en énergie environnement à l'ECE Paris et je suis un des coordinateurs de Youth for Climate France.
Je m'appelle Claire Renaud, je suis étudiante en philosophie à la Sorbonne. Et je suis aussi l'une des coordinatrices de Youth for Climate France.
Alors, Youth for Climate France, c'est une interface qui a été créée pour faire le lien entre les mouvements internationaux et le mouvement français, entre les mouvements locaux, donc dans toute la France, et une dimension un peu plus nationale et plus unie. Donc, l'intérêt, c'est d'être le porte-voix, et non pas porte-parole, donc le porte-voix de toutes les initiatives locales qui se passent en France. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de se créer, donc à Bordeaux, à Nancy, à Nantes, etc. Et surtout le mouvement à Paris, donc qui est le plus important et qui est celui dont on parle le plus. Et l'intérêt, c'est de porter un message qu'on essaye de faire commun, donc de la jeunesse française, envers les décideurs politiques et aussi envers la population, de dire bah voilà, il y a toute une génération qui se réveille aujourd'hui et qui dit bah aujourd'hui il faut agir. Et c'est super important aussi la partie internationale de Youth for Climate. Aujourd'hui, on communique beaucoup avec ce qui se passe en Belgique, avec les Suisses, ce qui se passe au Luxembourg, même au Royaume-Uni, en Suède, etc. Et du coup, c'est tout l'intérêt de Youth for Climate, créer des liens. On avait entendu parler de Greta Thunberg, etc., de sa grève devant le Parlement. Moi, j'avais trouvé ça génial. Et j'avais trouvé ça hyper culotté aussi de dire, bah, moi, tout seul, je vais changer le système, je vais influer le Parlement de mon pays, etc. Et j'avais beaucoup admiré ça. Et je m'étais dit, mais si moi, à son âge, j'avais été aussi, courageux et en même temps assez engagé pour le faire, hein. Et si toute ma génération, dès cet âge, avait eu autant de culot, bah, ça aurait été plus rapidement. Mais enfin bref, du coup, j'ai vu ça et je me suis dit que c'était super cool et que ce serait hyper cool que tout le monde fasse ça. Après, elle a eu son appel et j'ai eu l'occasion de la rencontrer en Pologne pendant la COP24, Greta. Et j'avais échangé quelques mots avec elle et elle m'avait vraiment impressionné par sa maturité. Et quand elle dit quelque chose, elle le dit. Enfin, c'est pas du small talk. C'est vraiment qu'elle a quelque chose à dire. Mais quand je l'avais rencontrée, je m'étais dit, c'est hyper cool ce qu'elle fait, qu'elle ait autant de médiatisation, etc. Sauf que j'ai du mal à voir comment ça peut se propager, en fait. Et c'est pour ça que j'étais hyper impressionné quand ça a commencé en Belgique. On en a entendu parler en Suisse et au Canada, en Australie, tout ça. Et la vague qu'il y a eu, ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui se fait là, et c'est le moment d'y aller. Il faut prendre part à ça, et c'est toute notre génération qui se réveille aujourd'hui. Et c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment de changer les choses. Hein.
Alors moi, je l'ai vécu d'un peu plus loin, en fait. Enfin, je l'avais vu vaguement sur les réseaux sociaux, et c'est seulement le dimanche où je crois que c'était le 27 janvier, où la veille et le jour d'avant, il y avait eu des grosses grèves en Belgique aussi, où en voyant les couvertures des journaux. Et j'ai compris l'ampleur de la chose et j'avais géré la communication de l'Agora pour le climat à Paris ce jour-là. Et là, vraiment, j'ai été subjuguée et surtout, je me suis dit, et pourquoi à Paris, on n'a pas ça ? Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était à nous de le faire. Enfin, que personne, si on n'allait pas le faire, n'allait le faire à notre place. Et que, ben oui, à Paris, il fallait le faire aussi.
Et pour mobiliser dans un mouvement horizontal, sans leader, sans syndicat ou structure déjà existante, il faut des volontaires. En France, pour l'instant, aucune figure forte n'a émergé, contrairement à la Belgique où les trois lycéennes à l'origine du mouvement se sont imposées comme les leaders de la mobilisation, ou même à l'Angleterre qui a rejoint la grève scolaire en même temps que la France, mais avec 15 000 jeunes mobilisés et une chef de file, Anna Taylor.
Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait déjà des gens qui étaient mobilisés, notamment dans les lycées, pour Parcoursup, pour la réforme de l'université, etc. Il y avait aussi les gilets jaunes tous les samedis qui occupaient énormément l'espace médiatique. Et du coup, je pense que toute la question écologique, environnementale, elle attendait de voir, en fait, où les gilets jaunes, ça allait aller. Et le temps qu'on se reprenne par rapport à ça, qu'on se dise, mais en fait, il se passe plein de trucs à côté. Et il faut qu'on enchaîne sur ce qui se passe en Belgique, sur ce qui se passe en Suède, etc. Et je pense qu'on a mis un peu de temps à le voir venir, mais, euh, Mais ça s'est lancé avec l'AG. Il y a des gens qui se sont dit, bon, maintenant, il faut y aller. Il y a Antoine, Léna, Martial, Lucien qui s'y sont mis. Et ça, ils nous ont fait une AG qui a lancé le mouvement. Et ce mouvement, maintenant, est lancé. Il faut le faire grandir et il faut... Faut se motiver, faut se mobiliser, quoi.
Un autre élément aide à mieux cerner la difficulté à mobiliser les jeunes en France. La grève ne fait pas consensus. Pour une partie de la jeunesse française, déjà mobilisée sur d'autres sujets, ce choix de la désobéissance civile comme mode d'action n'est pas une évidence.
J'en avais parlé avec Adélaïde, justement, vendredi dernier, sur pourquoi en France c'était plus dur de faire la grève.
Adélaïde, c'est Adélaïde Charlier. Elle a 18 ans et c'est elle qui coordonne le mouvement Youth for Climate en Belgique avec Hanouna De Wever et Kira Gantois.
Ça a aussi à voir avec le moyen dont fonctionne le système scolaire en France, où en fait on est obligé d'être en cours, en face à face, et c'est pas du tout malléable en fait. Hein. Du coup, c'est un face à face avec le prof, et si tu vas pas en cours, t'es puni, t'as une absence, t'as des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, surtout pour les lycéens en fait. Pour les étudiants, bon ben tu t'arranges si t'as pas envie d'aller en cours, mais pour les lycéens, c'est compliqué. Y a des problèmes de responsabilité, etc. Alors que dans les autres pays, c'est beaucoup plus libre. Et je pense que les élèves sont mieux responsabilisés, en fait, dans les autres pays. Mais oui, je pense qu'il y a une part de ça. Et ensuite, pourquoi le moyen de la grève, c'est quelque chose d'audible? L'idée de faire la grève, en fait, c'est parce que, dans tous les cas, ça fait parler. On peut contester le moyen, mais ça fait parler. Il y a un moment, je passais 5 heures au téléphone par jour avec des médias qui voulaient me parler. Et si on avait fait une marche le samedi, comme il y a eu en automne, etc., ça aurait beaucoup moins fait parler. Et du coup, je dis, ok, on peut critiquer ce moyen de faire la grève, mais ça fait parler, et le but, c'est ça. C'est de faire parler, c'est de faire entendre notre voix. Et après, s'il y a d'autres moyens à notre disposition pour faire parler, moi, je suis preneur. Mais c'est un des moyens qu'on a choisi, et on va en développer d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen, et c'est hyper important d'utiliser tout ce qui peut l'être, tous les moyens, pour faire porter notre message.
On a, je crois, en haute estime, un peu la façon, cette idée républicaine de l'école, etc., qui serait un peu mal vue de quitter. Et aussi, je pense qu'à quoi ça sert, finalement, d'aller encore en cours si le monde qu'on nous demande de préparer et qu'on prépare chaque jour en assistant aux enseignements est un monde en miettes qui on se prépare à un changement climatique d'envergure. Voilà, c'est aussi ça l'idée, de dire à quoi ça sert.
Le fait que le système scolaire français soit quand même plus rigide qu'ailleurs, c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles le fait que ce soit une grève scolaire pour le climat prenne moins qu'ailleurs.
Ouais, c'est vrai que ça a plus d'impact en fait dans la signification, dans le message porté. Et on l'a vu dès la première grève, on avait Brune Poirson, secrétaire d'État, qui est sortie devant le ministère de la Transition écologique et solidaire. On a eu dès la deuxième semaine une invitation à l'Élysée. Bon, c'était certainement parce qu'il y avait Greta, et je suis pas sûr que Monsieur Macron ait vraiment très très envie de parler avec nous. Mais oui, c'est vrai que c'est un message fort, hein, de se dire l'école, ça a beaucoup de signification pour nous, jeunes Français, puisque c'est pas bien de ne pas aller à l'école, etc. Mais du coup, le fait de ne pas y aller, c'est vrai que ça accentue le message, je pense. Et j'espère que les personnes qui nous voient ne pas aller à l'école, et il y en a beaucoup, si on regarde sur les réseaux sociaux, si on regarde dans les médias, qui disent « mais vous feriez mieux d'aller à l'école, et puis vous vous occuperez de ça quand vous aurez votre diplôme, etc. » Et justement, on leur dit « mais oui, mais on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps d'aller à l'école si on n'a pas de futur. On va à l'école, c'est pour préparer notre boulot, notre vie personnelle d'après. » Mais si notre vie personnelle, elle se passe dans un monde qui n'a rien de viable, qui n'a rien de... où on ne sera pas heureux, où avoir un boulot, ça ne servira à rien, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Et on l'assume.
Une fois que l'on a identifié ces différents éléments, un mouvement coordonné à 100 leaders, des mobilisations sur différents fronts depuis plusieurs mois, un attachement particulier à l'école en France, peut-on encore dire que la jeunesse française est à la traîne ou en retard sur ces questions climatiques?
Moi, j'étais au premier rendez-vous Alternativa à Bayonne il y a quelques années. J'ai vu émerger ce qu'on appelle nous Génération Climat.
Lui, c'est Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et militant associatif. À 38 ans, il n'est plus vraiment un jeune, mais il s'est engagé dans de nombreux collectifs et mouvements de jeunesse, que ce soit pour le logement ou l'emploi. Et en tant que militant écolo, il suit de près tout ce qui peut avoir un lien avec le dérèglement climatique.
Donc tu as des mouvements de jeunesse dédiés, le We Are Ready Now, le WARN, des mouvements qui sont pas forcément de jeunesse, mais qui sont très très jeunes, type Alternativa. C'est Che Guevara et d'autres qui sont des piliers de l'écologie et de la non-violence qui ont œuvré à sa constitution. Mais eux, ils ont vraiment filé les clés du camion à une jeunesse qui n'a pas 40 ans, c'est clair. Des fois, deux porte-parole, ils ont 40 ans à deux, tu vois. Donc, c'est un peu le truc. Et ça, cette génération, elle s'est constituée, oui, en amont de la COP 21. Ce qui n'avait pas été le cas en amont de la COP 15, donc celle de 2009 à Copenhague, qui avait été aussi très structurante, et puis il y avait eu le Grenelle de l'environnement, mais il n'y avait pas eu un effet générationnel. Il y avait eu un effet de sensibilisation dans l'opinion, de prise de conscience, y compris de mesurer à quel point les promesses engagent que ceux qui les croient, malheureusement, mais pas un effet générationnel aussi fort. Et là, c'est peut-être allié avec le fait que, ben, malheureusement, ce dérèglement climatique, ça fait des années qu'on dit « Ah, on parle pour les générations futures », et maintenant, en fait, c'est les générations présentes. Et donc, cette génération, quand on lui dit 2050, enfin, moi, quand on me dit 2050, vraiment, j'entends un gouvernement qui dit « Je fais semblant de prendre des décisions, ça ne m'engagera pas parce que de manière en 2050, on ne sera plus là. » Sauf que cette génération, elle dit bah, « Moi, je serai là et j'aurai, alors tu choisis, j'aurai 40 ans, j'aurai 30 ans, j'aurai 50 ans, mais elle sera là. » Et donc, quand on dit 2050, X degrés de plus, je sais pas quoi, le truc invivable, un milliard de populations déplacées ou tout ce qu'on peut imaginer, la collapsologie, ça les concerne. Ça, c'est peut-être un vrai changement, peut-être la matérialisation du dérèglement climatique et le fait qu'une génération puisse se dire « Tiens, mais en fait, ça me concerne moi directement. »
Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu par ces mobilisations des jeunes. Pour vous faire un avis, regardez les commentaires d'adultes qui réagissent à ces grèves scolaires pour le climat sur les réseaux sociaux. Commencez par arrêter de manger du fast-food et d'acheter des vêtements toutes les semaines. Arrêtez de suivre les modes et de changer de portable. Encore une excuse pour sécher les cours, la confiance règne. Rajoutez à cela 4 ou 5 milliers de jeunes mobilisés en France contre 20 ou 30 milliers en Belgique et vous obtenez des commentaires un bras manqueur sur ces manifestations.
On a un vrai prisme à Paris, j'allais dire, enfin, en France, qui est de regarder depuis sa fenêtre d'éditorialiste s'il y a du monde en bas à Paris. Et c'est comme ça que, par exemple, il y avait des gens qui disaient « les gilets jaunes s'effondrent ou ça s'arrête en décembre », alors qu'il y avait une recrudescence, par exemple, à Bordeaux, par exemple. Donc on a un vrai sujet là-dessus de tout simplement vision très centralisée et très classique. Ce sont des gens qui ont été formés au rapport social classique de manifestation, et donc si les gens manifestent pas, c'est pas visible. Et puis s'ils sont un coup 30 000 et un coup 15, le mouvement s'essouffle. La première marche, je l'ai faite à Paris, il y avait beaucoup de monde. La deuxième, je l'ai faite à Grenoble. Bah, évidemment, j'avais l'impression qu'on était moins nombreux. Sauf que comme la première à Grenoble, c'était un pique-nique, les organisateurs, ils étaient tout fous à Grenoble, parce qu'on était très très nombreux par rapport au pique-nique d'avant. Bon. Donc il y a cet aspect dont il faut se méfier.
En France, que ce soit pour la grève scolaire ou d'autres mouvements, on compte en effet que depuis Paris. Par exemple, pour la manifestation du 22 février, les seuls chiffres relayés sont ceux de la capitale, où les jeunes mobilisés étaient entre 3 et 5 000. Mais ailleurs, à Strasbourg, Bordeaux, Lille ou Marseille. En Allemagne ou en Belgique, quand les organisatrices rendent compte de la mobilisation, elles parlent pour tout le pays. Les 35 000 jeunes belges en grève le 24 février ne sont pas que ceux de Bruxelles. D'ailleurs, les coordinatrices du mouvement prennent soin de manifester dans différentes villes, que ce soit Anvers, Louvain ou la capitale.
Et puis on n'a pas besoin d'être nombreux en fait. Je crois que c'est vraiment très fort. De mon temps, si je dois parler comme un vieux, avec Jeudi Noir aux générations précaires, des collectifs informels sur le logement ou sur l'emploi, on était des millions à avoir un problème de logement, c'est-à-dire des jeunes actifs qui n'arrivaient pas à se loger malgré un salaire et quelques garanties. On était des millions, on l'est encore. On était des millions à souffrir de difficultés pour l'insertion professionnelle. On n'était jamais des millions, évidemment, à manifester, à squatter des appartes, des immeubles, pardon, ou à faire la fête dans des appartements trop chers. Il n'y a pas besoin d'être des centaines de milliers dans la rue. Si on l'est, c'est bien. Mais la force de quelques lycéennes ou lycéens qui... interpellent finalement leurs parents, leurs grands-parents et les pouvoirs publics, c'est dévastateur. Enfin, au sens positif, hein, évidemment, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, quoi. C'est sûr qu'il n'y a aucun grand-parent qui peut rester insensible Donc il ne faut pas non plus s'inquiéter ou dramatiser pour ça.
Pas de panique donc, la jeunesse française n'a rien à envier à ses camarades européens. Aujourd'hui, vendredi 15 mars, elle espère montrer qu'une génération tout entière est consciente, déterminée et mobilisée, bien au-delà des frontières. Par cette mobilisation que les jeunes espèrent massive, ils veulent dire « nous sommes prêts à changer le monde » et pour eux, ce n'est que le début.
Merci à Juliette Loiseau pour ce reportage réalisé par Vincent Hiver. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.